Comptoir, une émission littéraire proposée par l'association Libraire à Marseille, enregistrée en public au Bouchon Marseillais et habituellement animée par Pascal Jourdana. Une rencontre un peu exceptionnelle pour ce dernier rendez-vous de la saison, enregistré le 19 juin. Tout d'abord parce que, vous le constatez, ce n'est pas Pascal qui vous accueille, je vous rassure, il sera de retour dès la rentrée prochaine. En attendant, il sera aujourd'hui question de lecture et de jeunes lecteurs à l'occasion de la remise du prix du livre Jeunesse à Marseille, vendredi 20 juin, à l'Alcazar. Un prix qui depuis quelques années, 15 ans exactement, fait converger les efforts des libraires, des bibliothèques et des établissements scolaires de Marseille pour éveiller et accompagner le plaisir de lire auprès des jeunes lecteurs. J'évoquais à l'instant que notre rendez-vous de ce soir était exceptionnel. Il l'est aussi par la présence à mes côtés de trois auteurs et un éditeur, dont les ouvrages ont été plébiscités par leurs lecteurs. Anne-Marie Gara, tout d'abord, lauréate du prix Femina en 1992 avec Aden, qui est venue apporter son soutien au prix du livre jeunesse avec trois livres qui ont été lus et semble-t-il approuvés. Une fin de loup, lecture du Petit Chaperon Rouge, et puis L'Enfant des Ténèbres et Dans la main du diable, ces trois livres sont publiés chez Actes Sud. Et puis Mario Ramos est l'auteur de Loup, loup, y es-tu, c'est publié chez L'École des loisirs dans la collection Pastel. Et puis Pierre Delis a fait paraître La grosse faim de Petit Bonhomme, c'est chez Didier Jeunesse. Enfin, Janet MacDonald est l'auteur de Frères de rap chez Thierry Magnier, représenté sur ce plateau par Soisig Le Bail, éditrice. On aura au cours de cette rencontre l'occasion de revenir sur ces ouvrages, mais puisque nous sommes nombreux autour de cette table, voici tout d'abord un petit échange de vues sur l'utilité de la présence de la littérature et des auteurs à l'école.
Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. J'ai pas d'idée, moi, saugrenue, comme ça peut arriver, de rentabilité pédagogique.
Pierre Delis.
Ou autre chose qui font que, on transforme les enfants en des choses qu'il faudrait arroser de temps en temps, mettre un petit peu tout pour sa pousse. C'est plus l'envie de pousser qui est intéressante, quoi. L'envie de grandir. Et ça passe par le plaisir. Il me semble à moi que la lecture, il y a un apprentissage technique, mais qui n'est rien par rapport à l'envie de donner envie de lire, pour pouvoir aller se balader dans les bouquins, de pouvoir les ouvrir et de pouvoir les refermer et de prendre du plaisir. Moi, c'est ça que je défends et c'est ça qui me pousse, moi, à aller notamment à l'école, mais pas que là aussi.
Mario Ramos, la lecture n'est pas une technique, c'est un plaisir, j'imagine que vous abondez.
C'est d'abord un plaisir, quoi. C'est ce que je dis toujours quand je vais dans les classes. C'est une partie très importante de mon métier. Donc, je fais des albums pour enfants, je fais le texte et les dessins. Quand je fais les albums, je suis tout seul dans mon atelier. Et une partie très importante de mon métier, c'est d'aller dans les classes et de m'amuser avec les livres, de les faire réfléchir, parce que les livres, ça apporte beaucoup de choses. C'est un média auquel je crois vraiment. Ça induit une façon de réfléchir qui n'est pas la même quand on regarde un film ou quand on écoute de la musique. Et ce que je voulais dire, c'est que je leur fais beaucoup confiance, quoi. Quand je vais dans les classes, je suis toujours étonné de tout ce qu'ils comprennent. On me demande toujours pour quel âge c'est les livres et tout ça. C'est quelque chose que je ne sais pas du tout. Et quand je fais les albums, je ne me préoccupe pas du tout de ça. En fait, je fais une histoire qui m'intéresse, qui m'amuse et qui... Et le but, c'est que le lecteur, une fois qu'il ait fini le livre, il se pose plus de questions qu'au début. Il essaye d'ouvrir l'esprit, de faire réfléchir, de voir notre monde moderne, le monde qui nous entoure d'une autre façon, qui apporte des réflexions. Et puis, c'est la partie plaisir, j'insiste là-dessus, parce que dans les écoles, on leur apprend à lire. Et c'est pour lire les livres, c'est parce que c'est amusant, la lecture, en fait.
Le Bail, vous êtes éditrice. Peut-être on pourrait, à cette occasion, faire un petit état des lieux de l'édition jeunesse, peut-être plus particulièrement. Le contexte global de l'édition n'est pas forcément très, très favorable. Est-ce que celui de l'édition jeunesse l'est un peu plus ?
En tout cas, c'est une question piège terrible, ça. Je m'attendais pas à ça. Oui, je pense que l'édition jeunesse en France va bien. Et pour aller un peu à l'étranger de temps en temps, et je crois que Mario, tu pourras pas dire le contraire, on a la chance en France d'avoir des éditeurs, tous les éditeurs et plein d'éditeurs extrêmement créatifs et des auteurs audacieux, des auteurs talentueux. Et qui font de beaux livres, des livres qui sont admirés partout, qui sont admirés, qui se vendent beaucoup à l'étranger. Et vraiment, oui, l'édition jeunesse française va plutôt bien. Mais alors, moi, je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec Mario quand il dit que il fait des livres aussi pour que ça laisse des traces. Moi, en tant qu'éditrice, c'est mon souci. C'est mon souci. J'aime publier des auteurs qui ont des choses à dire particulières, singulières, et j'aime à penser, en tout cas moi, quand je les publie, je suis pas la même au début et à la fin. C'est souvent, ça se voit pas tant que ça. Mais en tout cas, moi, j'aime l'idée de littérature qui laisse des traces dans chacun des lecteurs. Des traces qui sont pas les mêmes pour tout le monde, d'ailleurs. Et Janet, si j'ai publié Janet, c'était parce qu'il y avait relativement peu de choses en France qui parlaient de cette communauté, des Noirs américains qui vivent dans les quartiers de Harlem ou de Brooklyn et qui ne sont pas tous dealers, qui ne sont pas tous des bandits, qui ne tuent pas tout le monde dans le métro, qui sont des familles normales, selon différentes notions de normalité, mais en tout cas qui sont dignes, qui travaillent, dont les enfants vont à l'école, sont ambitieux. Et c'est une vision qu'on n'avait pas. On avait, quand on parle des Noirs américains, on parle des esclaves. En littérature jeunesse, beaucoup, et on parle pas beaucoup de ces gens-là maintenant, aujourd'hui, dans les grandes villes. Voilà. Et Janet avait ce talent-là et cette verve-là de faire parler des adolescents qu'elle connaissait bien pour en avoir été et pour en avoir dans sa famille, avec un langage qui leur est propre et qui, je trouve, est très tonique, très vivant, très juste et jamais misérabiliste. Et c'est ça beaucoup qui m'a touchée dans l'écriture de Janet MacDonald.
On reparler plus en détail dans quelques secondes, mais peut-être pour terminer ou conclure ce petit moment de discussion un peu générale sur l'édition et la littérature jeunesse. Tout à l'heure, Mario disait que il n'aimait pas cette manière de créer des catégories pour les enfants, et notamment des catégories par âge, par tranche d'âge, vous voyez comme le terme est violent et méchant. Au fond, il y a peut-être aussi Anne-Marie Gara, la nécessité aujourd'hui de doter ce clivage entre littérature jeunesse et littérature tout court.
Ah, ça c'est une question sensible. oui. Mais on sait bien qu'il y a le point de vue éditorial et commercial et qui est important et pour les libraires et pour les éditeurs, quelquefois pour les auteurs, de cibler vers un destinataire qui a tel âge. On sait bien qu'il y a, je dis moi, péjorativement, un saucissonnage des âges de l'enfance. Donc moi, je me méfie beaucoup dans la manière de définir l'enfant, c'est-à-dire d'une certaine manière de l'infantiliser, de l'enfermer dans son enfance, dans l'âge qu'il a, en lui programmant en quelque sorte, là je voyais, je parle des formes les plus qu'on peut regretter, que peut prendre quelquefois l'édition jeunesse, c'est-à-dire qui destine à un enfant ce qu'on pense être bon pour lui en tant que pédagogue, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que grammairien, de la forme de phrase qu'il va pouvoir déchiffrer, les adjectifs qu'il comprendra, la syntaxe pas trop compliquée, les sujets aussi avec tous les tabous qu'on peut, et à quelquefois juste raison quand on est éducateur, interdire. Enfin, vous voyez, or la littérature, elle se soucie jamais de ça. C'est pas son problème de former, j'entends, d'éduquer. Elle n'est pas éducatrice, la littérature. Elle n'a pas cette mission. Elle peut l'être, mais par des détours extraordinaires. Et presque quelquefois, je dirais qu'il faudrait qu'il tombe entre les mains des enfants les choses qui ne sont pas écrites pour eux, hein, qui ne leur sont pas destinées en tant qu'enfants. Et que même ils trouvent des choses pas très compréhensible, un peu bizarre, un peu opaque. Et je crois que tout créateur, de toute façon, quand il crée, s'il crée, il n'est pas au fait de ce qu'il est. Il ne surplombe pas, il n'est pas plus intelligent que ce qu'il est en train de faire. Et donc les vraies œuvres, qu'elles soient pour l'enfant ou pour l'adulte, et les grandes œuvres de l'enfance, de l'enfance, quand l'écrivain est occupé par la question de l'enfance en lui, c'est justement des œuvres dans lesquelles il ne sait pas quel enfant il est, il a été, à quel enfant il s'adresse. Et c'est ça qui est magnifique, je crois, et qui trouve l'enfant, où l'enfant trouve l'engage à lui qui soit moteur de lecture. C'est-à-dire où, je dis toujours cette chose-là, c'est que pour déchiffrer, il faut qu'il y ait du chiffre, il faut qu'il y ait du secret, du mystère, il faut qu'il y ait une opacité, et tout le contraire, presque, je dirais, de la lisibilité, voyez, qu'il y ait de l'illisible, et non pas parce que les mots sont difficiles, mais parce que là, derrière, se cachent des choses que le texte n'avoue pas. Et je crois que les grands textes de la littérature enfantine, c'est ceux-là, ceux qui n'avouent pas ce qu'ils contiennent dans leur flanc.
Je voulais juste rajouter que nous, chez Thierry Bagnier, on a supprimé toutes les notions d'âge sur tous les livres. Alors, ça embête un peu les libraires, les parents aussi, mais moi, ça m'arrange. Parce que justement, je ne sais pas pour qui ils sont. Ça fait 20 ans que je suis éditrice, je ne sais toujours pas pour qui ils sont, ces livres-là. Il m'arrive de publier très régulièrement. Alors, c'est vrai, en France, ça, c'est pour les petits, ça, c'est pour les grands. Mais moi, je publie dans la collection des romans étrangers qui sont publiés pour adultes. En Suède, en Italie, je les publie dans cette collection dite pour adolescents, mais bien malin qui le sait, puisque c'est marqué nulle part. Parce que, ben oui, moi je pense qu'il n'y a pas de frontières, et je pense que des enfants se coltinent des œuvres dites difficiles, et ils y trouvent leur miel de manière pertinente, qui à chaque fois me bluffe, quoi. Et j'adore ça, hein, être surprise, être en décalage avec ce que je pensais être pour.
Les grands enfants que nous sommes ont souvent commencé par piller des bibliothèques qui ne leur étaient pas destinées à y trouver beaucoup de plaisir, des plaisirs d'autant plus vifs qu'ils étaient interdits, bien sûr. Peut-être Soizig Le Bail, à propos de Janet MacDonald, qu'on a évoqué tout à l'heure, vous pourriez nous présenter peut-être un peu plus en détail cet auteur.
Alors Janet MacDonald, donc, était une jeune femme noire américaine qui est née dans une famille nombreuse à Brooklyn, qui était brillante à l'école et qui a eu des bourses, je pense, pour faire. Alors, et ça aussi, c'est très américain, et je regrette que ça soit pas plus facile en France. Elle a commencé par faire des études de lettres de littérature française. Elle a fait une thèse sur Nerval. Et puis après, je suppose qu'elle s'est dit qu'elle pourrait peut-être pas en vivre. Alors elle a fait du droit. Et elle est devenue avocate d'affaires. Et avocate d'affaires spécialisée dans le droit français. Et elle est venue travailler dans un cabinet d'avocats d'affaires en France, à Paris. Elle parlait très très bien français. Puis après, les affaires et avocats, ça l'amusait pas tellement. Et elle avait commencé à écrire. Elle a tout lâché pour se consacrer à l'écriture. Elle parlait remarquablement français, avec un accent américain totalement craquant. Elle était très vivante, et elle avait aussi un grand sens de l'humour, on rigolait bien. Et je voudrais rendre hommage aussi à la traductrice, hein, qui est Nathalie Zimmermann, parce que elle avait une écriture très contemporaine, très urbaine, très parlée, et il a fallu que Nathalie trouve la chanson. La chanson pour restituer, oui, l'air de Janet sans tomber dans la vulgarité, sans tomber dans la facilité. Et comme Janet parlait et lisait très bien le français, on a beaucoup travaillé sur les traductions pour trouver le juste ton. Et c'était un travail, enfin, moi, que j'adore faire. Et on a beaucoup travaillé toutes les trois là-dessus, sur la distance entre la langue américaine et la langue française. Le l'argot, par exemple, ne résonne pas du tout de la même manière. Enfin, je l'ai appris, hein, ma science était toute nouvelle. Hein. Mais en tout cas, ce que disait Janet, c'est que l'argot ne sonne pas du tout de la même manière en américain et en français. En français, ça devient très vite très relâché. Et en américain, non. Alors, ces enfants dont elle fait parler, ces adolescents qu'elle fait parler, américains, avec une autre traductrice, ça aurait pu être une catastrophe. Ça aurait pu être d'une grande pauvreté. Et je trouve que non. Et je voulais rendre hommage à la traductrice. On parle jamais des traducteurs. Et moi, je pense que ce sont des gens extrêmement importants dans le monde de la littérature.
Quelques phrases issues de Frères de rap de Janet MacDonald. Ce qui différenciait les deux frères était encore plus évident sur le plan scolaire. Nate apprenait vite et sans difficulté, aimait les livres et appréciait les éloges que lui valaient ses bonnes notes. Ses résultats le mettaient en valeur, lui, mais plus encore, ses professeurs. Une étoile comme Nate projetait une lueur flatteuse sur eux aussi. Ne fût-ce que pour cela, il était très apprécié des enseignants. Et tandis que d'autres bons élèves étaient la risée, voire la tête de turc de leurs camarades de classe jaloux, Nate n'avait jamais connu ce genre de problème. Il ne prenait pas de grands airs. Et pourquoi l'aurait-il fait? Il ne se sentait pas au-dessus des autres, ni même différent d'ailleurs. Il éprouvait juste du plaisir à lire. Il vivait des expériences intenses et des aventures excitantes, sans quitter sa chambre, qu'il partageait avec Ellie. Soizig, Nate et ses potes de Harlem, Nate et son frère Ellie, ce sont deux chemins, deux mondes, celui qui passe par l'école et puis celui qui s'en éloigne. C'est à la croisée de ces deux chemins qu'est écrit Frère de Rap.
Alors, je crois vraiment que ça, Janet, les livres que j'ai publiés, j'en ai publié quatre, c'est sans doute celui qui résonnait au plus près de sa biographie. Parce que, effectivement, c'est l'histoire de Nate, Nathaniel, Sculo. Je dis tous ces, parce qu'il y a plein de noms différents pour les mêmes personnages selon où ils se trouvent. Et Nate est l'enfant de la famille qui, donc, était brillant à l'école et qui a de sa brillance a éteint son frère, qui s'est laissé éteindre, hein, et ça a donné lieu à une grande explication à la fin du livre. Et donc, et c'est vrai que Nate, lui, il a été sélectionné à l'américaine, hein, pour entrer dans une école très très chic, loin de Harlem, en grande banlieue new-yorkaise. Et donc, il est schizophrène, Nate, hein, c'est-à-dire que la semaine, et enfin, même plusieurs semaines durant, il est dans un environnement WASP, c'est-à-dire que blanc, protestant, riche. Et puis, quand il revient, quand il vient passer un week-end à la maison, à la gare, il se change. Il va dans les toilettes de la gare et puis il met son uniforme du quartier. Et parce qu'il n'est pas question de mélanger les deux vies. Et c'est vrai que Ned doit faire attention, et ce livre est là-dessus, comment être authentique chaque fois, comment ne pas trahir. Et il se sent, lui, à la croisée des chemins, mais il se sent autant habitant de Harlem que futur ingénieur, futur ponte d'une grande société multinationale. Et dans l'école, il n'y a que des gens riches. Alors, il y a quelques noirs comme lui, mais dont les parents sont industriels ou bien professeurs d'université. Mais il y a aussi beaucoup d'élèves très blancs et ou hispano, ou quelques asiatiques aussi. Et ça fonctionne en milieu clos. Et les élèves de cette école-là n'ont aucune idée de la vie qu'il peut mener lorsqu'il revient à la maison. Et le livre parle de ça aussi, puisque un jour, il va ramener une amie dans son quartier, là, et l'amie va être totalement horrifiée à tort. Mais c'est les deux mondes qui vont se télescoper et qui vont brutaliser un être qui va devoir faire des choix.
Le paysage dans lequel ce livre est écrit, paysage sonore, paysage urbain, paysage visuel, c'est celui de Harlem, vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que vous pensez que Harlem est encore aujourd'hui quelque chose qui est mythique pour les jeunes lecteurs français, Marseille peut-être en bas?
Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, et elle le dit bien, Janet, ce livre, donc, je ne sais pas, moi je l'ai publié il y a un an, il a été écrit en 2004, et Janet dit bien dans le livre que Harlem se transforme, que Harlem, alors je vais employer un vilain mot, mais se boboise, hein, sont bourgeoises, et que maintenant les belles maisons sont restaurées, et que la population change. Et je pense que de 2004 à 2008, bientôt 2009, Harlem a encore beaucoup changé. Quant à savoir ce que ça fait résonner chez les lecteurs d'aujourd'hui de Marseille, je n'en sais rien. Je vais dire un truc, c'est pas mon propos, ça m'est un peu égal, j'espère que ça les fait rêver, puis même s'ils n'ont jamais entendu parler de Harlem, eh ben là, ils en entendront parler, peu importe. Je suis pas sûre que ce soit un quartier mythique, je pense que ça l'a été dans les années 70, Angela Davis, les Black Panthers, tout ça, mais peut-être que maintenant, les jeunes sont un peu déconnectés de cette réalité, mais j'en sais rien, en fait.
Un livre qui s'adresse de préférence à des lecteurs adolescents et notamment avec des valeurs qui leur parlent considérablement, celles de la loyauté, celles de la fraternité et puis aussi le désir.
S'il vous plaît. Je dis Joël, ce n'est pas du catéchisme. Hein, c'est mais Nate est quelqu'un qui était bien élevé, voilà, qui était bien élevé par des parents aimants et donc qui ne veut renoncer à rien, ni de ses rêves, ni d'où il vient. Voilà, il va devoir travailler pour ça.
Eh bien, pour des lecteurs un petit peu plus jeunes que ceux qui seront intéressés par le livre dont nous venons de parler, pour des lecteurs un petit peu plus jeunes, mais éventuellement accompagnés de co-lecteurs un petit peu plus vieux, comme ça équilibre, La grosse faim de Petit Bonhomme de Pierre Delis et Cécile Udrizier. Un livre plein de petits creux, ceux d'un petit bonhomme, qui découvre que l'on n'a rien sans rien.
ce qui est vrai. Mais on n'a pas, on sait pas à chaque fois qu'on a tout sans tout non plus. Ben simplement, l'histoire, c'est tout bonnement une histoire d'échange. C'est-à-dire que on a réduit les échanges entre les gens et de plus en plus à un échange monétaire, ce qui est le début de l'histoire. Ouais, mais j'ai pas de sous. Mais si on parle toujours de sous, on prendra jamais le dessus aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, petit bonhomme va se retrouver, bon, ben, le, voilà, il a envie de pain. Je comprends ça. Oui, mais le boulanger, pour gagner sa croûte, il faut qu'il vende son pain. Bon, ben oui, ben, oui, mais lui, il a faim. Ah bon? Mais si la faim, c'est quand même sérieux, cette affaire-là. Donc, il va l'envoyer chez le meunier. Parce que, ben, au moins, bon, ben, pour faire du pain, c'est pas compliqué. Il faut un boulanger, bon, c'est lui. Une boulangerie, ben, il est dedans. De l'eau, il y en a dans les tuyaux, pourvu que ça dure. Du sel, il y en a dans la mer. Ça va. Mais la farine, bah, il va aller voir le meunier, petit bonhomme. Puis le meunier, il va dire, bah, il faut les grains de blé. Puis les grains de blé, bah, c'est le paysan. C'est pas l'agriculteur, c'est le paysan. Et, ouais, mais le paysan, pour que ça pousse, parce que le blé, il faut savoir quand même que quand on est fauché, c'est qu'on n'a pas de blé, mais que le blé, ça tombe pas du ciel. C'est que ça sort de terre. Et pour que ça sorte bien de terre, bah, il faut mettre de l'engrais. Et que le meilleur engrais du monde, bah, c'est quand même le crottin de cheval. Donc c'est à partir de ce moment-là où on se dit bien que le cheval, a priori, monétairement, est défavorisé. Mais au niveau du derrière, il peut prendre les devants quand même. Hein. L'histoire va vadrouiller un petit peu, parce qu'effectivement, on n'a rien sans rien et qu'il faut faire des efforts et tout ça. Oui, d'accord. Travailler moins pour lire plus, comme dirait Alain Serre de Rue du Monde. Oui, d'accord aussi. Éteindre les portables et allumer les oreilles, ouais, c'est bien aussi, ça. Mais qu'il y a un moment donné où il faut que ça se place ailleurs. Et que, à la toute fin de sa fin, quand il, voilà, son creux sera comblé, tout le monde aura donné à tout le monde en étant content de donner et content de recevoir aussi. Parce que bon, la rivière, elle a pas grand-chose à recevoir. Simplement, ce matin-là, elle avait pas eu le temps de faire son lit. Bon, ben, un petit bonhomme, il peut faire quelque chose, quoi. Et c'est le fait de cet échange-là. Moi, ça m'amuse.
C'est plus qu'un éloge de la transaction, c'est un éloge du partage aussi.
Du système d'échange local aussi. Oui. De tout ça. Mais en même temps, c'est très, très bien lu et très bien vu comme apologie de l'effort, de « on n'a rien sans rien ». C'est marrant, ça dépend qui le dit, ça. Hein, c'est y a un moment donné où quand c'est costard cravate attaché caisse et calculette, ça fait pas le même effet que bah vas-y donne-moi un coup de main, parce qu'il y en a certains quand ils donnent un coup de main c'est plutôt une baffe. Enfin voilà, ça jouant sur les mots et sur le sens et aussi sur le plaisir, moi ça me paraissait pas mal de raconter tout ça. Puis après ben on donne l'histoire puis on comprend qui peut qui veut.
Je vous en prie, Marie-Gara.
Ouais, c'est très beau. Petit bonhomme est entré chez lui, il s'est assis. Le pain, il l'a senti. Il a souri. Il en a mangé une partie. L'autre était pour les souris. C'était la nuit. Il est allé au lit et il a bien dormi. Et demain? Demain deviendra bien assez vite aujourd'hui. Alors à chaque jour sa peine, son pain et son plaisir. Et c'est ici que l'histoire se finit.
Le pain quotidien, le pain de ce jour, c'est un plaisir certainement d'en lire les mots, d'en lire l'histoire, d'en lire le conte aussi de la manière dont Pierre Delis vous le traduisez. Mais c'est aussi une illustration, peut-être quelques mots sur les magnifiques illustrations de ce livre.
Il y a un moment donné où quand un auteur se rend compte qu'il dessine des bonhommes avec des bras dans les oreilles, donc il est resté même pas avant la petite section de maternelle, il faut qu'il renonce. Et il se dit, bon voilà, moi je raconte l'histoire tout seul, hein, mais je raconte l'histoire tout seul. Oui, mais voilà une illustratrice qui va s'amener. Bon, intense moment d'inquiétude. Surtout que, mais ça c'est des bonnes nouvelles qui arrivent après. C'est que on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'elle va faire, on ne sait pas. Mais pour l'instant, voilà, là maintenant c'est devenu une amie, mais là on ne savait pas encore. Hein. Donc bon. Après, on va voir ses livres, si elle a déjà été éditée, et on se dit, ça sent bon cette affaire. Parce que là, je suis en train de me marrer à ces bêtises-là, et pour peu qu'elle sourie en lisant les miennes, ça va aller pas mal. Parce que ce qui est quand même extraordinaire dans mon cas, j'envoie des feuilles bêtes, quoi. C'est juste un peu taché par des lettres. Et il y a un moment donné, on commence à recevoir des images qui sont pas celles qu'on a dans la tête quand on écrit. ça n'a rien à voir. Ou des fois, ça se rapproche, ou et des fois, c'est encore mieux, c'est surprenant. J'ai dit, ah, j'y avais pas pensé, c'est encore mieux, quoi. Parce que là, on raconte une histoire à deux. Et on quitte le domaine de la mathématique comptable parce qu'on espère que 1 plus 1, ça va faire 3. Et c'est ce qui se passe avec Cécile Udrisier, c'est ce qui se passait avec Martine Bourg sur le premier livre que j'avais édité. C'est ce qui est en train de se passer actuellement parce que Cécile Udrisier est en train de suer sur le prochain livre. Et il y a des surprises, c'est-à-dire que on crée quelque chose ensemble qui n'y était pas avant. Moi, l'histoire, je l'avais dans la tête, et puis, ben, vous savez ce que c'est, quoi. On l'a dans la tête, puis après, il faut que ça passe par les mots. Oula, ça, déjà, il y a des affaires de dictionnaire, de... Après, il y a l'éditeur qui vous dit, oui, mais il y a un nombre de pages aussi. Fais gaffe à ton nombre de pages, hein. Oula, merde. Ça, j'y avais pas prévu. D'accord. Et puis, l'illustratrice arrive. Et quand elle a autant de talent, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur parce que, c'est comme si on, enfin, moi, j'ai relu l'histoire. Mais, enfin, non, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu une histoire que je connaissais pas avant. Parce que, elle a mis des tas de choses qui, là, ne passent pas par les mots, mais, qui sont extraordinaires, quoi.
On se rend compte à vous écouter, Pierre Delis, que la dimension de conte et de conteur est essentielle pour cette histoire et pour les nombreuses histoires que vous écrivez. Est-ce que vous avez déjà été tenté de leur donner une forme d'édition sonore?
Sortie prévue en mars.
Ah.
Et c'est-à-dire que, oui, enfin, mon premier métier à moi, c'est le raconteur d'histoire. Voilà. La plupart du temps, je le fais simplement avec la voix. Et puis, un jour, les maisons d'édition sont pas plus folles les unes que les autres, hein. Les raconteurs d'histoire, elles aiment bien ça, quoi. Et puis, parce que, je connais des chanteurs, je connais des musiciens. Un jour, j'étais dans un train, à côté de quatre Madame Cato Figaro, qui sont, c'est pas une critique absolue, c'est juste histoire de les décrire rapidement. C'est-à-dire qu'on était dans un TGV. Le problème du TGV, c'est que les fenêtres s'ouvrent pas. Et quand vous avez des voisins pénibles, vous êtes coincés. C'est-à-dire que ces quatre femmes-là partaient à la montagne pendant 15 jours faire du ski sans leur mari. Donc, à la montagne, c'est vachement chouette faire du ski aussi et sans mari. Alors là, normalement, c'est que du bonheur, quoi. Et elles se plaignaient. Sans arrêt, mais de cette manière insistante, comme une dent cariée, quoi. Et là, vous savez que vous n'avez pas de rendez-vous chez le dentiste tout de suite. Il y a la tentation de la tenaille, mais là, non, on peut pas ouvrir la fenêtre. Bon, ben voilà. Et il y a une histoire qui m'est venue en tête. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais pas leur taper dessus, ça se fait pas. Je vais pas changer de place parce que quand même, pourquoi moi et pas elles? Oui, mais elles sont quatre, donc la démocratie voudrait que... Oui, mais enfin, quand même, là, il y a un petit peu de dictature. Bon, non, bon. Et je me suis enfermé dans une histoire. Alors, sort cette histoire-là, j'ai pensé à un copain qui est chanteur, qui est compositeur, qui fait partie d'un groupe de rock pour enfants aussi qui s'appelle Les Biscottos. C'est des gens extraordinaires qui mettent du rock and roll partout et qui parlent de choses, de séparation, de mort, de rigolade, de questions. Voilà, ils ont une chanson sur les pourquoi. Alors pourquoi mon pépé il a un gros nez? Moi je trouve que c'est une question fondamentale, ça. Des trucs et puis de l'angoisse du gamin qui est content parce qu'il est malade donc il va pas à l'école mais qui voit sa mère armée d'un suppôt. Et ça, c'était pas prévu. Donc, c'est vraiment un imaginaire, moi, qui me plaît bien, quoi. Et cette histoire, j'ai commencé à me dire, je la racontais, mais j'aimerais bien la raconter avec eux. Donc, il a fallu écrire des chansons. Donc, il a fallu introduire des rimes, des choses comme ça, pour que ça puisse entrer en musique. Bon, ça m'a fait passer les quatre pénibles. Et à l'arrivée, je me suis dit, moi, je me suis bien amusé, là, pendant quelques heures, ça va. Tiens, je vais lui envoyer à lui. Est-ce que ça t'amuse? C'est le seul critère, que ça soit avec les illustrateurs, les illustratrices, avec Grégory, le musicien-compositeur, c'est est-ce que ça t'amuse? Oui, vas-y, joue. Amuse-toi, pose tes doigts. Donc, il a pris la guitare, tout ça. On a commencé à travailler. Et puis, bon, c'est bien gentil de s'amuser. Mais maintenant, on va continuer à s'amuser, mais on va s'amuser en plus grand, quoi. Comme nous, on s'amusait. Après, je suis allé voir l'éditeur en disant, est-ce que ça vous amuse, vous? Ils ont fait, oulala. Ah, c'est parce que c'est l'histoire de Moitié de Coq. Je sais pas si vous connaissez Moitié de Coq. C'est un coq, sa mère était un peu stressée, donc elle a pondu qu'une moitié d'œuf. Donc, il a un œil, une aile, une patte, quoi. Et un jour, il doit aller voir le roi dans son château, dans sa capitale, pour réclamer le sac de blé qu'il avait emprunté à sa mère. Vous savez comment sont les rois, ils empruntent toujours, mais ils rendent très peu. Et sur le chemin, il va rencontrer le renard, il va rencontrer le loup, il va rencontrer la rivière, il va rencontrer le géant. Et le renard explique que par malheur, il est plus malin que les humains. Et les humains n'aiment pas que l'on soit plus malin qu'eux. Et qu'il n'ose plus sortir. Donc, si Moitié de Coq veut passer sur son chemin à lui, il va falloir l'emmener. Moitié de Coq dit, mais ouais, moi aussi que je vais te cacher. Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc, il se gratte la tête. Pour quand on n'a qu'une seule patte, se gratter la tête. Donc, Moitié de Coq saute en l'air, se gratte la tête. Quand il retombe par terre, il a trouvé. Il dit, renard, si tu veux voyager sans te montrer, rentre dans mon trou du cul et n'en bouge plus. Donc là, l'éditeur a eu comme un doute. Mais comme nous, on s'amusait vraiment beaucoup, 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 il s'est dit, bon, s'il s'amuse, allez. Donc là, on va enregistrer, je vais raconter, il va chanter, les musiciens, donc ça sera le trio du rock'n'roll, quoi, guitare, basse, batterie, du chant, des choses comme ça, puis je vais raconter.
À venir très bientôt, donc, mais pour l'instant, La Grosse Faim de Petit Bonhomme, c'est édité chez Didier Jeunesse. On va rester dans une écriture destinée aux jeunes lecteurs avec « Loup, loup, y es-tu » de Mario Ramos, où l'on rentre dans l'univers du conte, qu'on continuera tout à l'heure à explorer avec Anne-Marie Gara. « Loup, y es-tu », c'est une figure classique du conte, figure, oui. Un archétype.
Oui, c'est le personnage du loup, incontournable personnage des contes. Alors moi, j'aime bien utiliser les animaux. Parce que d'abord, il y a un référent au conte de notre enfance, les trois petits cochons, le petit chaperon rouge qu'on a tous lu quand on était petit et qui nous ont influencés à une période critique. Et en plus, il permet de parler de notre monde moderne. Par exemple, avant, juste après ce livre-là, j'ai fait un livre avec un petit loup aussi qui s'appelle « Un monde de cochons ». Et là, vous allez voir le parallèle avec le monde moderne. C'est un monde où il n'y a plus que des cochons. Et en fait, les loups sont en minorité, donc ils sont menacés par les cochons. Je trouvais que le titre était assez parlant, « Un monde de cochons ». Alors, dans « Le loup y es-tu », j'ai de nouveau introduit le loup avec les petits cochons. Il y a un bon répondant entre ces personnages. J'ai réutilisé la chanson que tout le monde connaît. « Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas ». Ce sont les petits cochons qui embêtent le loup. En fait, pendant toute l'histoire, c'est ce qu'on croit. Et puis, quand on lit le livre jusqu'à la fin, il n'y a pas de loup dans le livre. Donc, c'est joué sur la peur du loup et il n'y en a pas. C'est un masque de loup. C'est le troisième cochon qui fait le loup. Voilà, ça m'amusait beaucoup. Dans un livre, il y a toujours une musique aussi. Et j'utilise la redondance de la chanson. Donc, la redondance est très importante dans des histoires pour enfants. Et puis, les différents niveaux de lecture. Évidemment, quand on regarde bien, dès les premières pages de Forêt, on remarque que le loup est déjà caché parmi les arbres, mais en fait, on se rend compte à la fin que ce n'est pas le loup. C'est pour ça que j'ai mis tout à la fin du livre une authentique photo du grand méchant loup, parce que je voulais pas faire croire qu'il n'existait pas.
La redondance, la répétition, est-ce que c'est précisément cette possibilité de retrouver un univers familier qui signe et qui définit le conte?
Là-dedans, ça fonctionnait comme ça, quoi. Je me pose pas trop de questions quand je fais, comme disait très bien Pierre, là, je m'amuse. En fait, on est son premier public. Et moi, comme j'ai la chance de faire les deux, je fais le texte et les dessins en même temps. Donc, les deux sont indissociables. J'imaginerais pas faire d'abord le texte et puis les dessins. C'est un rythme, ça induit un rythme. Il y a les pages de Forêt, quand on parle du loup, on le voit jamais. Quand il répond, on ne le voit jamais, ça accentue le mystère et ça inquiète. Je fais très peur pour à la fin tout à fait désamorcer, en fait. C'est jouer sur la peur. Les enfants adorent se faire peur, hein, jouer des personnages aussi et choses comme ça. Mais ce livre-là s'adresse plus particulièrement à un public, des enfants plus jeunes, on pourrait dire, quoi. Par exemple, le livre dont je vous ai parlé au début, Un monde de cochons, c'est plutôt première lecture et c'est beaucoup plus large. Mais dans tous les livres, je travaille sur les différents niveaux de lecture. Parce qu'il faut pas oublier que les albums pour enfants sont lus par des adultes aux enfants. Donc je mets toujours des petits détails. Bon, il y a des choses qui parlent aux adultes, il y a des choses qui parlent aux enfants. Les enfants, par exemple, remarquent très bien les petits détails, alors que les adultes ont une vision d'ensemble des images. Souvent, je joue là-dessus. Il y a plein de clins d'œil. Enfin, les dessins racontent autant l'histoire que le texte. Hein.
Comment est-ce que, justement, dans votre pratique, vous faites, vous commencez par des dessins, par des esquisses, ou bien c'est le texte?
Oui, il y a beaucoup de brouillons, hein. Mais comme j'ai dit, les deux sont mélangés dès le début. Donc j'écris et je dessine, c'est un rythme, je passe de l'un à l'autre, ça relance parce qu'il y a un certain nombre de pages, il y a un rythme à respecter. Mais il y a beaucoup de brouillons et de ratés, comme je dis toujours aux enfants, c'est pas évident comme ça, pour que le rythme fonctionne bien. En fait, au début, il y a beaucoup plus de matière que ce qu'il y a à la fin, quoi. C'est comme ça qu'on fait un bon livre, on enlève tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Et reste juste l'essentiel, quoi.
La clé d'un conte, c'est aussi sa chute, sa conclusion, parfois sa morale, peut-être pas dans celui-ci d'ailleurs. Mario Ramos, ce loup y es-tu, s'achève à la fois par une grande frayeur et un éclat de rire.
Oui.
Le rire et la peur, un rapport étroit dans le conte.
Oui, oui, bien sûr, et les enfants adorent jouer avec ça. Et si vous regardez la page précédente, en fait, quand on regarde bien, il y a des enfants qui le voient, on se rend compte que c'est un masque de loup. Si on regarde bien les yeux, on voit qu'il y a déjà du rose dans le... Alors la chute, pour moi, est très importante. Parce que commencer des histoires, je veux dire, c'est pas trop difficile. J'ai beaucoup d'histoires en commencer dans mes fardes. Je sais que j'ai un livre, une bonne histoire, quand j'ai la fin, quand j'ai la chute. Je crois que c'est la même chose pour un film ou pour un livre ou un roman. La chute est très importante. C'est ça qui fait que votre histoire... se termine et en même temps ne se termine pas vraiment puisqu'elle est relancée à une puissance beaucoup plus importante. Et c'est ça qui fait que vous avez envie de reprendre le livre au début, c'est ça qui fait qu'en fermant le livre, il ne se termine pas vraiment à ce moment-là, mais il continue dans votre tête. Donc la fin est vraiment essentielle pour moi. C'est au moment où j'ai la fin que je sais que j'ai un bon livre, une bonne histoire.
Peut-être pour conclure sur ce rapport à la peur, à quel point il est essentiel pour les enfants ? Se rassurer de ses propres peurs.
Et en même temps, jouer avec ça, c'est ressentir c'est pouvoir extérioriser des choses tellement importantes qu'on a tous. Si vous regardez dans une cour de récréation, j'observe souvent les enfants quand je vais en animation. Je les observe dans la cour de récréation. Ça m'a déjà donné beaucoup d'idées d'ailleurs. C'était l'idée d'un autre livre autour du loup. C'était « C'est moi le plus fort ». C'est quelque chose qui revenait très souvent dans la cour de récréation. Et avoir peur, des histoires tristes aussi parfois, rire, mais ça permet par procuration de vivre des sentiments tellement importants et sans trop se mettre en danger. Et c'est important, c'est ça qui construit l'enfant. Enfin, je crois vraiment à cette valeur, quoi. Donc quand on parlait de l'importance des livres, je crois que quand je fais un livre, je m'amuse tout simplement et j'espère que ça amusera les lecteurs, petits et grands, parce qu'il faut que les grands s'amusent aussi, ou sinon le petit sent que la lecture est ennuyante. Souvent, c'est lu par un grand à un petit. Mais là, j'ai oublié ce que je voulais dire.
sur cette co-lecture, sur le fait que la lecture d'un livre est accompagnée par celle d'un
oui, ce genre d'album.
L'importance,
oui.
En tout cas, de
c'est très
de
important.
Ce partage.
Parce que le livre, par exemple, dont on parlait, Frère de rap pour adolescents, là, c'est lu tout seul. Donc, c'est un fonctionnement très différent. Donc, c'est très important de travailler sur les différents niveaux de lecture. Puisqu'il faut que l'adulte qui lise à l'enfant aussi s'amuse aussi, trouve un niveau qui l'intéresse. C'est pour ça que souvent, chez moi, il y a des références à notre monde moderne et parce que ça intéresse aussi les enfants, quoi. Quand vous voyez, il y a des titres comme Le monde à l'envers, par exemple. C'est des choses, le petit qui est mal dans le monde qui l'entoure. C'est des choses qui parlent à tout le monde. Ou Un monde de cochons, ça fait rire les enfants et ça fait rire les adultes, mais pas avec le même référent. Ou L'histoire du loup qui croit qu'il est le plus fort. C'est moi le plus fort, par exemple. En fait, j'ai eu cette idée en regardant les enfants dans une cour de récréation. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui revenait très souvent. Et puis j'ai fait mes premiers croquis avec, je trouvais que le loup était un personnage adéquat. Et j'écoute la radio dans mon atelier, donc il y a les informations. Et à ce moment-là, en écoutant les informations, je me suis dit, mais c'est comme dans la cour de récréation. C'est moi le plus fort, je vais t'écraser, je vais aller bombarder ton pays et tout. Donc ça doit être un bon sujet, les différents niveaux de lecture. Et je crois que ça amuse aussi bien les adultes que les enfants.
C'est vrai qu'à la radio, et j'en suis témoin, on entend parfois de grands méchants loups.
Souvent.
Anne-Marie Gara, on va continuer notre chemin dans cette forêt des contes avec Une fin de loup. ces raccords, qui n'est pas un conte d'ailleurs, mais une lecture du Petit Chaperon Rouge, une lecture ou un essai, un décryptage, pas forcément destiné aux jeunes lecteurs, en tout cas une révélation de la relation profonde et sensible que vous entretenez avec ce conte-là. On a parlé tout à l'heure avec Mario Ramos de figures, d'archétypes, de formes classiques. Or, vous déclarez, l'art de Perrault est de référer sans figurer. Référer ?
Oui, c'est une formule qui arrive au bout d'un développement où j'expliquais ça. En fait, le loup n'existe pas dans le Petit Chaperon Rouge. Il n'est pas attesté dans le texte de Perrault. Mais je voudrais enchaîner sur ce que disait Mario Ramos, là, qui est très important. C'est qu'il n'y a pas de conte plus épouvantable, plus horrible, et qui flirte avec les choses les plus, aujourd'hui encore, les plus désastreuses. Cannibalisme, inceste, pédophilie féminine encore plus terrible que, plus tabou, je dirais, que la pédophilie masculine. Donc ce conte est un explosif, enfin c'est une bombe catastrophique, et qui s'achève sur ces paroles sans recours. Et ce méchant loup se jeta sur le Petit Chaperon Rouge et la mangea. Et Perrault avait, dans une des premières éditions, accompagné d'une didascalie en disant que la conteuse se jetait alors sur l'enfant et le dévorait de baisers. Et là, je crois tout le génie, littéralement le génie, à la fois de ce texte qui est un des plus sublimes de la littérature, de lettrée écrite, hein, car il a une longue tradition orale derrière lui, parce qu'il dit que l'art, l'œuvre d'art, est bien le lieu du simulacre et où l'enfant peut être instruit de l'horreur, tout en apprenant que l'amour qui le lui enseigne désamorce sa puissance négative. C'est-à-dire qu'on peut tout dire aux enfants, que les enfants peuvent lire des choses terribles, horribles, monstrueuses. Il peut prendre connaissance du monstre, mais sous la forme de l'art, sur le théâtre de l'art, là où le langage est en représentation, présente deux fois le monde, le remet en scène. Il peut donc approcher l'horreur, le mal, hein, et en même temps en être instruit, c'est-à-dire qu'en lui, les défenses vont se construire. Ça n'est pas en le mettant au contact du mal, de la réalité. Là, nous allons le détruire, l'enfant, nous allons l'anéantir. Et nous savons combien le mal du siècle dernier, les camps, les horreurs, la barbarie, et encore aujourd'hui, les guerres, enfin, le sort de l'enfant dans le monde aujourd'hui, hein, tout cela le détruit, nous détruit en tant qu'être humain. Et dans cet état d'enfance, empêche que nous soyons jamais un être accompli, quelqu'un qui a grandi et qui peut affronter le monde. Mais le conte, le récit, il n'est pas infantile là, justement. Il est totalement adulte. Les contes, comment dire, ne sont pas écrits pour les enfants. Ils parlent à l'enfant une langue d'amour, hein, où nous adultes, nous sommes capables de lui dire sous cette forme du simulacre les choses qui vont l'armer pour grandir. Et je crois que c'est ce qui est dit là, tout ce que vous disiez tout à l'heure, hein, que les enfants sont très au fait, ils ont tout compris. Le conte n'a pas besoin de moralité. La moralité de Perrault est une chose de lettré qui vient comme dans les fables de La Fontaine qui remontent à Ésope, etc. Où entre adultes, on avait besoin de dégager la moralité. Les jeunes demoiselles que le loup poursuit jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles, etc. Tout le monde a très bien compris. C'est le prédateur mâle, c'est le viol, c'est un viol qui a lieu dans le Petit Chaperon Rouge. Bon. Ces dévorations. En réalité, le conte populaire, lui, ne donne pas de morale. L'enfant a tout lu. Qu'est-ce que c'est lire? Voilà. C'est que moi, si j'ai écrit ce livre si tard dans ma vie, j'entends devenu mère grand et prenant connaissance de la grande faim que j'ai de mes petits-enfants. Quelle faim j'ai de leur chair fraîche, de leur jeunesse, enfants de mes filles qui ne sont pas nées de mon ventre, mais que je voudrais me réapproprier dans mon amour de mère grand, je me suis aperçue que j'avais lu toute ma vie, ou plutôt que le Petit Chaperon Rouge m'avait lu toute ma vie, que c'était une lecture en moi qui se continuait, qui s'adaptait aux âges de ma vie, et qu'enfin je lisais le Petit Chaperon Rouge, que sa lecture s'achevait, si vous voulez. Son sens se délivrait dans l'expérience vécue. Et je crois que, en fait, les grands textes sont des textes comme ce que vous venez, ce qu'on vient d'évoquer, de ce qu'on appelle aujourd'hui littérature de jeunesse. Mais c'est pas ça. Ce sont ces grands textes qui font que l'enfant est habité ensuite par un imaginaire qui est non pas le contraire de la réalité, mais la vérité de la réalité qu'il est en train d'apprendre et qui ensuite se lie en lui toute sa vie. Voilà, je crois que c'est ça là. Et c'est devenir lecteur. C'est ça qui fait de nous des lecteurs, qui nous donne cette grand fin de lecture ensuite.
Ce conte qui n'est pas le déni de la réalité, mais au contraire le cœur même du réel. Peut-être quelque chose de surnaturel dans le conte, de surréel.
Il n'y a rien, c'est le conte dans lequel il n'y a ni magie, ni fée, ni baguette, ni transformation. Et même la seule chose de l'animal qui parle, hein, puisqu'il prend la parole, le loup quand même, c'est quelque chose de tellement validé par la fable, etc., que c'est à peine quelque chose de magique et de surnaturel. D'ailleurs, il parle en langage tellement policé que c'est pas un langage d'animal, si vous voulez. C'est pas une animalité qui s'exprime. C'est une humanité qui s'exprime dans le langage du loup. Et quand je disais qu'il n'est pas dans le petit chaperon rouge, elle ne le voit pas, et nous non plus. Et les petits enfants lecteurs ne s'y trompent pas, qu'ils n'ont pas vu le loup. Quand elle le rencontre, il est tellement ordinaire en son apparence qu'elle entreprend avec lui un dialogue, tout ce qu'il a depuis policé. Puis quand elle entre dans la chambre de sa mère grand, elle est bien étonnée de voir comment elle est faite en son déshabillé. Vous voyez la litote, là, ça veut dire dans sa nudité, hein. C'est pas dans son déshabillé au sens de sa robe de chambre. Ça veut dire en sa nudité de mère grand, de louve, donc, de vieille vulve, vieux pénis, vieille peau. C'est-à-dire en quoi nous transforme la vie, dans ce qui défigure la, même tout sexe, je dirais. Elle n'a plus de, hein, les grandes vieillardes d'aujourd'hui, centenaires, sans doute. Les mères grandes d'aujourd'hui, elles sont, cosmétiquées, gymnastiques et diététiques, font qu'on n'a pas tout à fait la tête de cette mère grand-là. Mais en effet, la vieillesse, en quoi nous métamorphose-t-elle en cet objet étrange? Mais ce qui frappe le chaperon rouge, c'est que c'est grand, qu'elle a des grands bras, des grandes jambes, des grands yeux, non pas qu'elle ait des yeux, etc., des grandes dents, hein, autre chose de grand qu'elle ne nomme pas, qui va l'anéantir, hein. Mais donc, cette anatomie étrange de la mère grand ne l'empêche pas du tout d'entrer dans le lit et d'approcher d'elle. C'est étonnant, c'est bizarre, mais il n'y a pas une répulsion telle qu'elle fuit. Au contraire, elle vient voir de plus près, hein. Et donc, cette fascination de l'enfant, même les enfants s'y reconnaissent très bien. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Les questions dont il nous accable, dont Freud dit qu'ils sont pour cette jeune humanité qui vient vers nous avec les questions encyclopédiques, hein. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le caillou, le papillon, etc.? Qu'est-ce que la nudité de la mère grand? D'où naissent les enfants? D'où viennent les enfants? Les questions de la brûlante, de la jeune brûlante humanité, dit Freud, hein. Elle est posée dans le petit chaperon rouge, cette question.
Dans ce petit chaperon rouge aussi, il y a beaucoup d'absences. On pourrait même dire qu'il y a beaucoup de disparitions. C'est peut-être même ce qui distingue le conte du reste de la littérature fantastique. La littérature fantastique, c'est une affaire d'apparition. Et le conte, c'est une affaire de disparition.
De disparition. C'est en quoi il est épouvantable. Et les enfants s'en réjouissent. Ils ont tout très bien compris que cette petite fille, elle court à son anéantissement avec le sentiment de sa mère. Mère insécure, qui la jette pas du tout, elle la prévient pas dans le conte de Perrault, elle lui dit pas de pas s'arrêter, pas du tout, à parler au loup, pas du tout. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de parler au loup, etc., bon, c'est une mère insécure. Il y a un assentiment de la mère grande, du loup et de tout le monde. D'ailleurs, je vous signale que le loup est tantôt la mère grande, tantôt la petite fille. Il est partout et tout le monde à la fois, et là est l'horreur peut-être. Que nous puissions être ventriloques, et comme au théâtre, d'être tous les rôles à la fois, d'avoir tous les masques et toutes les voix immédiatement. Hein, c'est un omnipotent ventriloque, ce loup qui peut s'identifier à tous les rôles. Donc tout le monde est d'accord pour que la petite fille disparaisse. Elle y court, elle y vole, sauf par ce détour magnifique qui est là vraiment la magie de la langue, où elle se perd dans la forêt par le chemin tort, le chemin qui tortille, alors que le loup va, lui, sa droite ligne géométrique, d'un point à l'autre au plus vite, hein, il court avec sa vélocité musculaire, alors qu'elle flâne. Et ça, c'est le chemin de la poésie. Ça, c'est le chemin, le sursis de la beauté et de la bonté du monde, des noisettes, des papillons et des fleurs. En un temps de sursis, elle a le temps de goûter de toute la grandeur et de la beauté du monde avant de s'anéantir là où toute la logique du conte l'amène, c'est-à-dire à disparaître. Ça, c'est une des, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un texte génial, un des immenses textes de la littérature.
Anne-Marie Gara, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette rencontre. J'aimerais qu'on évoque, pour conclure, Dans la main du diable et L'enfant des ténèbres, deux ouvrages publiés chez Actes Sud. L'un vient de sortir, je crois, en 2008, l'autre date de 2006. Deux romans pétris d'un souffle narratif extrêmement fort. On sent que vous n'êtes pas partisane de cette littérature sèche, mais au contraire d'une volonté d'un souffle narratif qui sous-tend l'ensemble de votre travail, de votre écriture. Voyons que je remonte dans l'histoire. Elle a donc d'abord longuement protesté contre toi de ta visite à Passy, mais ensuite elle m'a déballé de sa vie, plus que je n'attendais. On aurait dit que cela lui échappait, qu'elle n'avait pas tant envie d'en dire, mais au bout d'un moment, on n'arrêtait plus la fuite. La fuite du récit,
c'est le plaisir de relater. Vous savez, dans relater, il y a ça, c'est la relation. C'est à la fois raconter et être en relation. Et on vient de le dire assez longuement, je crois, à propos des enfants, de cet acte que j'appelle d'amour, qui consiste à leur consacrer du temps. N'ayons pas peur des mots, il y a quelque chose de sacré, je crois, à prendre en otage un petit peu notre temps pour avoir avec lui ce lien des lectures, ce lien où on les prend sur les genoux, il y a quelque chose là de très amoureux, de très physique, où on leur apprend que le langage est porteur de sens, et plus encore que ça, peut-être que c'est vital, êtres humains, de partager ensemble les histoires, que les histoires nous aident à vivre. Et je crois que tout lecteur de roman, ensuite adulte, il est encore en demande, que nous sommes l'enfance en nous, mais je crois qu'il y a quelque chose d'une jeunesse des lectures qui est là, dans ce ressort profond, qui est que nous avons besoin d'histoires. Plus profondément encore, je crois que c'est parce que nous nous racontons des histoires que nous pouvons maîtriser le monde, et mieux le comprendre, et mieux y être dedans, et mieux l'affronter demain.
L'enfant des ténèbres est dans la main du diable, deux livres, deux vertiges au bord de la guerre, cette guerre qui peut être ce démon, ce mal absolu dont vous avez parlé tout à l'heure.
Les loups sont là.
La fuite du temps, hélas, il est temps maintenant de conclure ce jeudi du comptoir autour aujourd'hui du livre et de la jeunesse. Merci à tous d'y avoir participé. Et je le rappelle, vos livres attendent d'être lus dans toutes les bonnes librairies, entre autres la librairie Prado Paradis, dont je crois les représentants sont parmi nous ce soir. Reprise des Jeudis du comptoir avec Pascal Jourdana à la rentrée fin septembre. Mais d'ici là, Pascal Jourdana viendra épauler la rédaction de Grenouille sur le FID, Festival International du Documentaire, du 2 au 7 juillet. Alors restez à l'écoute sur les 3-8. Merci à tous.
Vous l'avez constaté, cet enregistrement réalisé par un prestataire n'était pas d'une qualité optimale. Toutes nos excuses et grand merci à Tony, notre sourcier maison, pour la restauration du son de cette rencontre. Très bon été sur la Grenouille.